Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en français sous le titre « Dans la tanière du loup, les confessions de la secrétaire de Hitler », ce livre rassemble les souvenirs de Trudeljung, l'une des secrétaires personnelles d'Adolf Hitler entre 1942 et l'effondrement du Troisième Reich en 1945. Rédigé après-guerre, puis repris pour publication avec la journaliste Melissa Müller, ce témoignage relève des mémoires plutôt que de l'étude historique systématique. Son intérêt tient à la position exceptionnelle de son autrice jeune femme de 22 ans, initialement attirée par la danse et peu engagée politiquement. Elle est admise dans l'entourage quotidien du dictateur. Elle décrit le travail de secrétariat, les déplacements entre quartiers généraux, le Berghof et Berlin, ainsi que les derniers jours dans le bunker de la chancellerie. Le livre ne prétend pas expliquer à lui seul le nazisme ni documenter exhaustivement ses crimes. Il interroge plutôt les conditions concrètes de l'aveuglement. La séduction d'un pouvoir protecteur et la responsabilité de ceux qui choisissent de ne pas regarder au-delà de leur cercle immédiat. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une proximité quotidienne qui révèle le fonctionnement d'une cour politique. La valeur première de ce récit réside dans son point d'observation. Trudeljung ne regarde pas Hitler depuis les tribunes, les archives militaires ou les procès d'après-guerre, mais depuis les espaces ordinaires de son entourage. Elle dactylographie des textes, prend part aux repas et aux soirées et suit les déplacements d'un cercle fermé dont les routines organisent la distance avec le monde extérieur. Cette proximité permet de comprendre que le pouvoir nazi ne reposait pas seulement sur des institutions, des ordres et la violence visible, mais aussi sur une cour où la hiérarchie, les habitudes et l'accès privilégié au chef produisaient de la loyauté. Le livre montre ainsi un environnement protecteur pour ses membres, matériellement séparé des privations et des destructions que subissait l'Europe en guerre. Cette dissociation est essentielle. Le confort, l'attention accordée aux collaborateurs et la convivialité apparente ne contredisent pas le caractère criminel du régime. Ils peuvent au contraire rendre l'adhésion plus facile pour ceux qui bénéficient de cette protection. Le témoignage ne fournit donc pas une radiographie complète de l'appareil nazi, mais il éclaire avec précision la dimension domestique et relationnelle d'un pouvoir totalitaire. Deuxièmement, le portrait privé de Hitler sans banalisation de ses crimes. Trudeljung rapporte l'écart troublant entre l'image publique du dictateur et l'homme qu'elle observe dans l'intimité de son service. Elle le décrit souvent comme courtois, attentif aux codes de la vie quotidienne et capable d'une apparente douceur envers certaines personnes de son entourage. Elle évoque aussi sa colère, sa rigidité, sa méfiance grandissante et son enfermement dans ses certitudes. Cet assemblage de traits explique le malaise durable que suscite le livre « La monstruosité politique » ne se présente pas nécessairement à chaque instant, sous une forme spectaculaire pour les proches du pouvoir. Toutefois, lire ce portrait comme une réhabilitation serait une erreur de méthode. L'intérêt du texte est précisément de faire voir comment une conduite privée policée peut coexister avec une politique de guerre, de persécution et d'extermination. La perception limitée de Jung est elle-même un document, elle montre ce que l'entourage choisit ou parvient à ne pas relier. Le lecteur doit donc maintenir une double lecture, attentive à la sincérité du souvenir, tout en replaçant ses observations dans la réalité historique du régime. Cette tension distingue un témoignage de proximité d'une analyse globale, il apporte une vision située, inévitablement partielle, mais révélatrice. Troisièmement, l'aveuglement volontaire, comme question centrale de responsabilité, le fil moral du livre est la tentative de Trudeljung de comprendre son propre aveuglement. Elle n'apparaît pas comme une dirigeante qui aurait conçu les politiques du régime. Mais son absence de responsabilité décisionnelle ne clôt pas la question de sa responsabilité personnelle. Après la guerre, la découverte de l'ampleur des crimes nazis transforme rétrospectivement son expérience. Elle doit reconnaître qu'elle a vécu près du centre du pouvoir tout en s'abstenant d'approfondir les doutes qui pouvaient surgir. Le récit invite ainsi à distinguer ignorance, information fragmentaire, refus d'enquêter et confort de l'auto-justification. Ces catégories ne sont pas équivalentes. Une personne peut ne pas connaître tous les faits et néanmoins choisir de ne pas demander ce que signifient les signes visibles autour d'elle. Le livre ne résout pas cette ambiguïté et c'est l'une de ses forces. Il ne propose ni une absolution simple, ni une confession qui effacerait le passé par le regret, en confrontant sa jeunesse, son ambition professionnelle, sa loyauté et sa passivité. Jung rend tangible la manière dont des individus ordinaires peuvent s'accommoder d'un ordre injuste. La référence fréquente à la banalité du mal doit ici être comprise avec prudence, elle sert à penser la normalisation de la complicité, non à diminuer la gravité des crimes. Quatrièmement, les derniers jours dans le bunker, un document sur l'effondrement du régime. La partie consacrée au bunker de la chancellerie de Berlin donne au livre sa place particulière parmi les récits des derniers jours du Troisième Reich. Trödeljung est présente dans l'entourage immédiat de Hitler lorsque la défaite militaire devient inéluctable. Elle rapporte une atmosphère de confinement, d'attente et de désorganisation, où la volonté de conserver les apparences de commandement se heurte à la destruction de Berlin et à la disparition des marges de décision. Son travail prend alors une portée historique directe, elle dactylographie notamment les testaments privés et politiques de Hitler. Le récit couvre également les suicides de Hitler et d'Eva Braun, puis la dispersion et la tentative de fuite des survivants du bunker. Cette séquence importe moins comme scène sensationnelle que comme observation de la désagrégation d'une autorité prétendument totale. Le pouvoir qui avait imposé l'obéissance à une grande partie de l'Europe se réduit à un espace souterrain, à des instructions sans avenir et à des proches contraints de penser à leur survie. Comme toute mémoire personnelle, ce passage doit être confronté aux travaux historiques pour établir les faits généraux. Mais la présence de Zhang confère à ces pages une force documentaire rare, elle restitue l'expérience vécue d'un effondrement politique depuis l'intérieur. En dernier lieu, les limites d'un récit rétrospectif et les conditions d'une lecture critique. Dans la tanière du loup doit être lu à la fois comme une source précieuse et comme un récit rétrospectif. Les souvenirs de Zhang ont été rédigés après la guerre. À un moment où la défaite, les révélations sur les crimes du régime et les procédures de dénazification modifiaient nécessairement la manière de raconter le passé. Son affirmation d'avoir été largement tenu à l'écart des réalités criminelles du nazisme suscite donc une interrogation légitime. Plusieurs lecteurs et historiens soulignent qu'il est difficile de mesurer exactement ce qu'elle savait, ce qu'elle soupçonnait et ce qu'elle a ensuite reformulé à la lumière des connaissances acquises. Cette réserve ne rend pas le texte inutile, elle définit sa bonne utilisation. Il ne faut pas lui demander une preuve définitive de l'ignorance de son autrice, ni le traiter comme une histoire complète du régime. Il faut plutôt examiner sa position sociale, les silences du récit, les mécanismes de filtrage de l'information et le langage par lequel elle évalue son passé. L'encadrement éditorial et la confrontation avec des sources historiques sont alors indispensables. Cette exigence critique augmente la portée du livre, il devient non seulement un témoignage sur Hitler, mais aussi un objet d'étude sur la mémoire, la culpabilité et les récits produits après une catastrophe politique. En conclusion, ce livre s'adresse d'abord aux lecteurs intéressés par la Seconde Guerre mondiale, les derniers jours du Troisième Reich et les témoignages de première main. Il sera également utile aux étudiants et aux lecteurs qui cherchent à réfléchir aux formes ordinaires de l'adhésion à un régime criminel, la carrière, le désir d'être protégé, la routine professionnelle et le refus d'approfondir des informations inquiétantes. Son bénéfice intellectuel ne réside pas dans l'apport d'une théorie achevée du nazisme, mais dans l'obligation de lire un regard situé, limité et rétrospectif. Cette lecture apprend à distinguer l'expérience d'une témoin, les faits qu'elle peut établir et les zones qu'elle ne peut éclairer qu'imparfaitement. Par rapport aux biographies de Hitler, aux synthèses historiques ou aux études sur la Shoah, Dans la tanière du loup se distingue par son échelle intime. Il ne raconte pas le régime depuis les décisions institutionnelles, mais depuis une secrétaire intégrée à une bulle de privilèges et de dépendance. Cette focale explique à la fois sa puissance et sa limite, elle humanise le cadre quotidien sans devoir jamais humaniser, au sens d'excuser, le dictateur ou son système. Les scènes du bunker et la dactylographie des derniers textes de Hitler donnent en outre au témoignage une proximité documentaire exceptionnelle, lue avec esprit critique et complétée par des travaux historiques. L'ouvrage reste une ressource marquante pour comprendre comment la violence d'État peut être occultée par la normalité apparente d'un entourage. Si vous souhaitez soutenir Trödeljung, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.